Voilà, je termine ce matin sur un message que j'ai commencé il y a 3 semaines sur la gestion de notre temps. Comment gérer notre temps? Et je disais que on est très stressé en ce moment parce que voilà, on a l'impression que on n'a plus de temps pour rien. Et les chrétiens en particulier sont stressés parce que non seulement ils ont les soucis du monde, mais aussi les soucis de l'Église. Hein, il faut s'engager dans l'Église, il faut faire ceci dans l'Église. Et très souvent, c'est pas le cas ici, dans notre Église, mais très souvent, c'est les mêmes qui font tout. Donc, il y en a qui sont à l'école du dimanche, d'autres qui sont, quand ils sont à la louange. Et voilà. Et donc, voilà, le temps, c'est un souci. Et j'aimerais vous donner quelques repères, comment gérer le temps. Pour gérer le temps, il faut savoir ce que c'est que le temps. Et donc, j'ai rappelé 3 visions du temps. La première vision, c'est le temps de l'homme. Et le temps de l'homme, c'est le chronos. Le chronos, c'est les secondes qui passent. Voilà. Et la naissance et la mort. Voilà. Métro, boulot, dodo. Si on n'a pas d'autre chose dans la vie, c'est le temps qui passe. Le deuxième temps, je me rappelle, on n'a pas la télé, mais j'ai vu sur Arte, quand j'étais en vacances. Je sais pas, il paraît qu'il y a une vallée dans les Indes, non, en Amérique du Sud, où on vit plus de 110 ans. Je sais pas comment ils font. Et puis le monsieur montrait au caméraman que tous les jours, il tirait le tiroir, où il avait tout prévu pour sa mort. Voilà, là, il va mettre ça, sa mort, on va lui mettre ça, etc. Et tous les jours, il regardait quand est-ce que je vais mourir, quoi. Voilà. Donc, vous voyez, si on a que ça dans la vie pour attendre la mort, c'est pas très, très réjouissant, quand même. Voilà. Mais c'est le temps chronos. Le deuxième temps, c'est le temps de Dieu. Le temps de Dieu, c'est hors du temps. Il est hors du temps. Il n'est pas dans le temps. Le temps n'existe pas. Je vous ai dit qu'aujourd'hui, la physique quantique a découvert qu'avec Einstein, que le temps n'existait pas. Et que c'est, voilà, juste pour l'homme, pour avoir des repères. Troisième temps, c'est le temps orienté. Et je vous invite à avoir un temps orienté. Le temps orienté, c'est un temps dans lequel il y a une vision. Si vous n'avez pas de vision pour votre vie, si vous ne savez pas ce que vous devez faire ici sur la Terre, vous êtes malheureux. Si vous ne savez pas quel travail faire, quelle activité faire, eh bien, je vous envie pas, parce que vous êtes, voilà, vous êtes perdu et votre vie n'a pas de sens. Dans Acte, non, dans, oui, c'est ça, dans Acte 13, il est écrit David, après avoir reçu en sa propre génération, après avoir, pardon, en sa propre génération, servi les desseins de Dieu, s'est endormi. Donc, vous voyez, David est mort, il s'est endormi, mais après avoir servi les desseins de sa génération. Est-ce que vous savez quel est le dessein, le plan de Dieu pour vous, pour servir dans votre génération? C'est ça la question, c'est ça la vision. Est-ce que vous le savez? Si vous ne le savez pas, bah demandez à Dieu, parce que sinon je vous plains, parce que votre vie n'aura pas de sens. Il faut avoir une vision. Dans 1 Corinthiens 10, 3, il est dit, faites tout pour la gloire de Dieu. La vision nous donne une capacité de savoir ce à quoi nous sommes appelés. Et je rappelais ça dimanche dernier, dimanche d'avant, et là il y a une, là ça a été redit par Alexis. Hein. La vision, c'est de savoir pourquoi on est là, pourquoi est-ce que Dieu vous a créé, pour quel plan, pour quel dessein, pour quel but sur cette terre, sur cette vie, c'est le pourquoi. Et la vision, c'est de passer du pourquoi au comment. Et au quoi, ce que nous faisons. Mais la plupart des gens, et aujourd'hui, de plus en plus, les consommateurs, hein, vous voyez, le temple de la consommation, il n'arrête pas de grandir. Quand j'étais aux États-Unis, on était à voir l'église Bethel, j'ai dit à Michel, mais c'est pas possible, quoi. Sur l'autoroute, il y avait une enfilade, une enfilade, une enfilade de grands magasins comme Carrefour, quoi. Je dis, mais qu'est-ce qu'ils font? C'est pas possible, quoi. Ils peuvent pas vivre de ça, quoi. Ils font que des magasins, des magasins, des magasins, des magasins, quoi. Et puis, disons, un responsable de Foursquare qui était venu, qui avait fait un doctorat, une thèse, il dit, mais pour être un bon Américain, il faut consommer. Sinon, on n'est pas un bon consommateur. Un bon Américain. Vous voyez, le citoyen américain doit être un consommateur. Et plus il consomme, plus c'est un bon citoyen. Vous voyez, les choses ont changé. Hein. Avant, un bon citoyen, c'est vous alliez à la guerre et puis vous serviez. Non, bon citoyen. Donc, c'est pour ça que bah, voilà, les gens deviennent de plus en plus gros, quoi. Hein. Parce que, voilà, ils ne peuvent plus contenir tout ce qu'ils mangent. Tout ce qui, voilà. Non, je plaisante, mais vous savez, il y a du vrai. En Californie, là, vous, les voitures, ils ne sont plus assez grandes. Des fois, il y en a un qui tient deux places, quoi, hein, dans la voiture. Pourquoi ? Parce que ils consomment. C'est le watt, c'est l'extérieur. Et ils cherchent à avoir, à utiliser des choses. C'est la société de consommation. C'est le postmodernisme. Mais nous, en tant que chrétiens, si nous suivons, et c'est pour ça qu'il faut être transformé dans notre culture, notre mentalité, pour revenir au pourquoi. Pourquoi est-ce qu'on est là ? Quel est mon appel ? Quel est le dessein que je reçois de Dieu ? Dieu me parle. Si je ne le reçois pas, eh bien, demandons à Dieu de le recevoir. L'Église, ici, on a un appel. On sait pourquoi on est là. On sait pourquoi on est au Bergerville. Ruben va nous le dire, l'appel de Dieu. Non, je ne vais pas vous mettre en porte-à-faux. Mais l'appel de Dieu pour l'Église, eh bien, vous le verrez sur le site internet qui va bientôt sortir. L'appel de Dieu, c'est nous sommes appelés à être. Nous sommes appelés à être une communauté d'hommes et de femmes libres. Est-ce que vous voulez être libre ? J'étais étonné parce qu'à Marie-France, la femme de Luc, à la fin du culte, elle a dit « Ah, c'est bien votre vision. J'aimerais bien avoir cette vision. Être libre. » Vous voyez, quand ça parle à quelqu'un qui veut être libre, eh bien, ça donne du sens à son pourquoi. Pourquoi il est là ? Voilà. Nous sommes appelés à être une communauté d'hommes et de femmes libres afin d'amener d'autres personnes à la liberté en Christ. Voilà, ça c'est l'être. Ça c'est pourquoi nous sommes là. Et c'est pourquoi nous engageons dans la mission qui est là, hein, qui est d'établir des communautés, ça commence par des couples, par des familles, par toutes sortes de communautés libres. Mais pour ça, on a besoin d'outils. Donc on va chercher des outils. Donc on a le TQP, on a Elijah House Ministry, d'ailleurs, Je prépare avec l'Autriche deux séminaires de formation en février et en mai, nos premières rencontres de formation et la Elijah House. Voilà, parce qu'on a besoin d'outils. On ne peut pas le faire comme ça. Pour que nous puissions aider des hommes et des femmes à devenir libres, nous devons être libres. Sinon, on ne peut pas emmener des gens dans la liberté. Voilà. Donc, nous, il faut qu'on passe effectivement par cette transformation. Et je suis content que eh bien, vous ayez reçu cet enseignement et qu'on va aussi profiter de cet enseignement pour nous. Et ensuite, après, nous allons prier et adorer. Donc, c'est Moving Glad. Hein. Prier et adorer. Et le troisième élément de notre mission, c'est évangéliser comme des ambassadeurs. Comme des ambassadeurs. Amen. Nous avons une vision. Et c'est parce que nous avons une vision, nous pouvons eh bien, motiver des chrétiens qui ont envie. Ceux qui n'ont pas envie de ça, ils comprennent tout de suite. Hein. Il y a des fois des chrétiens qui viennent, ils disent « Ah, dans votre église, je comprends que vous pensez ce que vous dites, et il faut que dans la semaine, je sois comme le dimanche. » Je dis « Vous avez tout compris, madame, on n'a plus jamais vu cette femme-là. » Quand les gens comprennent que dans cette église, il faut passer par une transformation, eh bien, ils cherchent une église où voilà, il y a la consommation. Meilleure louange, meilleure école du dimanche, meilleure. Voilà, et puis on s'assied, et puis on consomme. Voyez ? Mais l'Église n'est pas prévue pour être des consommateurs. L'Église est prévue d'être remplie de prêtres. Vous savez ce que c'est que des prêtres ? Nous sommes tous prêtres. Mais bon, ça, on le sait dans la théorie. Mais prêtre, ça veut dire servir. Servir Dieu, servir les hommes. Et donc, voilà, tout le monde est appelé à servir à son niveau dans l'Église. Je pourrais rester longtemps sur ce thème-là. Je passe aux trois. Donc ça, c'est les trois visions du temps. Le temps de l'homme, le chronos. Le temps de Dieu, c'est le kairos. Et le temps de la vision. Il y a trois temps dans la Bible. Le passé, le présent et le futur. Le passé, le présent et le futur. Pourquoi ? Ça a l'air évident quand je dis ça. C'est pas du tout évident. Toutes les autres religions n'ont pas une histoire linéaire, n'ont pas un temps linéaire. Vous prenez le bouddhisme, ou n'importe quel autre, l'hindouisme, tout ce que vous voulez. C'est pas des temps linéaires. Voyez-vous, la linéarité du temps, c'est spécifique à la Bible. Le temps, il est comme ça. Vous voyez, on meurt. Et ici, c'est des réincarnations. Vous pouvez réincarner dans une vache, vous pouvez réincarner dans une pierre, vous pouvez réincarner, vous voyez, c'est le principe de la réincarnation. Eh ben oui, le temps n'est pas linéaire, le temps est cyclique. Et ça, c'est pour l'éternité. Vous voyez, vous passez d'un animal à l'autre ou d'un autre endroit, ça, c'est le principe de la religion. Le principe de la Bible, vous voyez, il y a un début, il y a une fin. Je ne sais pas si vous avez remarqué, la Genèse, l'Apocalypse. Bon, ben, c'est une histoire de la rédemption. Mais après, ça change. On est dans l'éternité. Ça peut l'air évident comme ça, mais nous, on a cette particularité. Et donc, la Bible dit qu'il y a un passé, mais il ne faut pas que le passé, ce soit des regrets. Jacob a dit « Les jours des années de ma vie ont été courts et mauvais. » Jacob avait des regrets. Mais il faut se souvenir de la grâce de Dieu. Tu te souviendras de tout le chemin par lequel l'Éternel, ton Dieu, t'a fait marcher. Il faut être dans la reconnaissance. Et là, je vous invite à écouter les enseignements d'Hélène qui sont enregistrés hein, sur la reconnaissance qui aussi est notre cheval de bataille un peu pour les temps de louange que nous allons avoir. Être reconnaissant du passé, même si le passé n'est pas parfait, mais le passé nous montre comment Dieu est intervenu dans nos vies. Le futur. Ben, le futur, soit c'est un temps de présomption, hein, et la Bible dit dans Proverbes, ne te glorifie pas du jour de demain, car tu ne sais pas ce qu'un jour enfantera. Donc, nous ne pouvons pas nous glorifier du futur, mais nous pouvons avoir l'espérance. L'espérance, c'est Jésus-Christ, notre espérance, hein, Timothée 1:1. Et son retour est notre attente ultime pour le futur. L'espérance est une certitude, c'est un espoir qui ne sera pas déçu. La certitude de la consommation des temps. Ceux qui feront Georges Lade en formation, vous entendrez de cette notion d'eschatologie. L'eschaton, c'est Jésus qui vient pour consommer le temps. Il est venu accomplir à la croix, mais ce n'est pas encore consommé et ce sera consommé lors de son retour. Donc nous sommes en marche vers l'espérance. Mais le présent est important. Le présent, il y a trois mots pour le présent, vous voyez ? Et la Bible insiste beaucoup sur le présent. Le présent, c'est le kairos de Dieu, l'événement que vous êtes ici dans ce monde pour quelque chose, c'est le kairos de Dieu dans le chronos, et votre chronos va prendre du sens, parce qu'il n'a aucun sens, sinon ce n'est que du tac-tac. Eh bien, c'est l'aujourd'hui, c'est le premièrement et le maintenant de Dieu. Ce sont ces trois éléments qui sont très importants. L'aujourd'hui, c'est le mot du salut. Aujourd'hui, si tu entends la voix du Seigneur, eh bien, accepte-le dans ton cœur. C'est aujourd'hui que nous ne devons pas endurcir nos cœurs. C'est aujourd'hui, donne-nous le pain d'aujourd'hui dans la prière que Jésus apprend à ses disciples. Premièrement, c'est le mot des priorités. Premièrement, c'est les priorités. Cherchez premièrement le royaume de Dieu et sa justice. Et toutes choses vous seront données par-dessus. Voyez-vous, il faut mettre des priorités. C'est la mission. Pour nous, c'est la mission. C'est le deuxième élément de notre vision. Et le maintenant, c'est le mot de l'engagement. Maintenant, je m'engage, Seigneur. Sur ça, dans les campagnes d'évangélisation, on demande aux gens, est-ce que vous voulez aujourd'hui vous engager ? C'est peut-être un geste simple, mais c'est un geste de décision. Est-ce que tu veux aujourd'hui t'engager avec moi, dit le Seigneur ? Ce que je vis maintenant dans la chair, je le vis dans la foi au Fils de Dieu, qui m'a aimé, qui s'est livré lui-même pour moi. Galates 2:20. Et le mot service. Voici, c'est maintenant le temps favorable. Pour le vivre, il nous faut vivre notre position en Christ. Maintenant, je veux te servir et je veux être vainqueur et triompher avec toi, Seigneur. Il nous faut vivre dans le présent, mes chers amis. Et j'ai bien aimé cette semaine dans notre réunion de prière, Ruben l'a rappelé à ceux qui étaient là, on avait deux personnes nouvelles, où par le Saint-Esprit, on a pu leur dire c'est le présent, c'est aujourd'hui. Ne regarde pas au passé, ne regarde pas au futur, c'est le présent qui t'appartient. Nous, c'est le présent. Moi, je ne sais pas ce qui peut m'arriver, voilà, dans quelques heures, peu importe. C'est le Seigneur qui connaît. Mais le présent, oui, ça m'appartient. Aujourd'hui, maintenant, ce temps-là m'appartient. Le diable cherche toujours soit à nous renvoyer dans le passé, avec des regrets inutiles, on ne peut rien y faire, ou dans le futur, avec des rêves, des rêveries, pour nous détourner du présent. Ça, c'est sa stratégie. Il veut nous détourner du présent. Le diable, c'est aussi l'illusionniste, hein, qui vous fait croire des choses, tout ça pour pas que vous vous occupiez du présent. Et Dieu veut agir dans le présent, parce que nous sommes en collaboration, comme on l'a rappelé tout à l'heure, nous devons collaborer avec lui. Dans Philippiens 3, versets 13 à 14, on va le lire ensemble. Philippiens 3, 13 à 14. Frères, pour moi-même, je n'estime pas encore avoir saisi le prix, mais je fais une chose. Oubliant ce qui est en arrière et tendant vers ce qui est en avant, je cours. Alors, oubliant ce qui est en arrière et tendant vers ce qui est en avant, je cours vers le but pour obtenir le prix de la vocation, de l'appel, de la vision. Si tu n'as pas de vision, demande au Seigneur d'avoir la vision. Pourquoi tu es là? Et tu vas courir dans cette direction et tu vas avoir du sens. Vous voyez, aujourd'hui, les gens qui ne connaissent pas Dieu, ils ont créé une réflexion sur la quête de sens. Vous avez ça partout, la quête de sens. Mais Jésus est celui qui vous donne du sens et qui vous appelle par votre nom, qui vous donne un appel, une spécificité particulière. Alors cherchez-la pour que vous puissiez vivre et, comme Paul, courir vers le but pour obtenir le prix de cet appel. Dans 1 Timothée, chapitre 1, chapitre 1er aussi, un autre passage intéressant sur ce point-là. 1 Timothée 1, 13. Moi, Paul, hein, qui était auparavant un blasphémateur, un persécuteur, un homme emporté, mais il m'a fait miséricorde, parce que j'agissais par ignorance dans l'incrédulité. Et la grâce, notre Seigneur, a surabondé avec la foi et l'amour qui est en Jésus-Christ. Voyez-vous, de son passé chargé, Paul, eh bien, n'a pas retiré des regrets, regrets de blasphémateur ou de persécuteur, mais le souvenir de la miséricorde de Dieu. Il a reconnu qu'à ce moment-là, Dieu était là. Amen. Vous voyez, nous devons toujours chercher des bonnes choses dans le passé, parce que Dieu est là. Nous, nous faisons des bêtises. Lui était persécuteur, blasphémateur, mais Dieu, il était toujours bon. Dieu n'a pas changé. Il faut se souvenir de ça. Et ça nous aide à nous orienter vers le but. Le but, c'est 1 Corinthiens 9, verset 26. Donc, je cite toujours Paul, hein, 1 Corinthiens 9, verset 26. Au contraire, non, pardon. Moi, donc, je cours, mais non pas à l'aventure. Pas dans tous les sens. Je donne des coups de poing, mais non pour battre l'air. Au contraire, je traite durement mon corps et je le tiens assujetti de peur, après avoir prêché aux autres, d'être moi-même disqualifié. Donc, prédicateurs, les plus grands prédicateurs, il faut prier pour eux, ils peuvent être disqualifiés. Et ceux qui disent qu'il ne faut pas juger les prédicateurs, si, on a à juger ce qu'ils disent, pas juger ce qu'ils font, ce qu'ils sont. C'est une grosse erreur qu'on fait en ce moment. Non, l'apôtre Paul avait peur d'être disqualifié. Et il aurait pu être disqualifié. Et vous savez que Saül a été disqualifié. Ouais. Donc on a cet enseignement dans la Bible, il faut se le rappeler. Mais Paul vivait au présent. Notez les verbes qui sont utilisés par Paul. Vivons dans le présent, dans l'espérance du futur, en laissant de côté le passé, auquel d'ailleurs nous ne pouvons rien changer. Et je termine par le dernier point sur le temps, gestion du temps, passer du temps tyran au temps serviteur. Il y a quatre actions que je vous propose pour gérer ce temps-là. C'est un, prioriser vos activités. Prioriser vos activités, le principe de base, c'est qu'on a toujours du temps pour ce qui est important. Voilà? Le problème, c'est de savoir qu'est-ce qui est important pour nous. Tout le problème. Alors, si vous voulez le savoir, eh bien, je vous propose d'examiner honnêtement, honnêtement, sans vous tromper vous-même, mettez une feuille de papier, examinez honnêtement à quoi vous passez réellement votre temps et vous découvrirez ce qui est important pour vous. Ouais. Faites-le, soyez honnête. Allez pas dans le déni, dites pas, oh, je fais ça, bah oui, mais combien de temps? Ça fait 2 minutes? 10 minutes? 1 heure? Et vous faites une statistique, soyez honnête. Un chrétien est supposé être honnête, vous êtes d'accord? Bon, pourquoi être dans le déni? Les gens du monde sont dans le déni. Le déni, c'est un déni de réalité, un déni de vérité. Nous sommes... Alors faites-le et vous verrez si, et ensuite après vous comparez par rapport à la Bible. Est-ce que ce que je fais, ce qui pour moi est important, est-ce qui est important pour la Bible? C'est pour ça qu'on dit la Bible est l'autorité. Vous voyez, bon, une chimère, une façon de parler. Il faut être honnête, c'est ça être transformé. Hein, je pense que ça faisait partie aussi du message. Être transformé, c'est d'abord être honnête. Et accepter que d'autres vous disent la vérité. Il y en a qui se mettent en colère. Ah non, je ne veux pas. Attends, c'est la seule manière d'être honnête. Bien sûr, il faut reconnaître si la personne exagère ou pas. Mais si elle dit la vérité, il faut l'écouter. On a besoin des autres qui nous disent qui nous sommes et ce que nous faisons. Hello ? Vous êtes d'accord avec moi ? C'est pas facile. Hein. C'est pas facile. C'est pas facile. Je dis quelque chose de très difficile. Mais c'est une question de vie ou de mort. Pour votre vie aujourd'hui, il faut accepter que les autres parlent dans votre vie. Bien sûr, s'ils sont bien intentionnés. Jésus est notre modèle. Il a été pressé par les gens de Capernaum. Regardez ce qu'il a fait dans Luc chapitre 4, verset 42. On va le lire. Luc chapitre 4, verset 42. Nous allons voir Jésus, notre modèle. Dès que le jour parut, il sortit et alla dans le lieu désert. Des foules de gens se mirent à sa recherche et vinrent jusqu'à lui. Ils voulaient le retenir afin qu'il ne le quitte pas. Mais Jésus leur dit, « Il faut aussi que j'annonce aux autres villes la bonne nouvelle du royaume de Dieu. Et c'est pour cela que j'étais envoyé. » Et il prêchait dans les synagogues de la Galilée. Voyez-vous, Jésus connaissait les priorités, ce que son père lui avait dit. Il ne s'est pas laissé emporter par la foule, par l'émotion, par « Ah, ils ont besoin de moi ». Non, qu'est-ce que Dieu a demandé à Jésus de faire? Qu'est-ce que Dieu vous demande de prioriser dans votre vie? Et c'est ça que vous êtes supposé de faire. Okay, il ne s'est pas laissé détourner de sa mission. Voyez-vous, la mission, notre mission, c'est établir des communautés libres, prier, adorer et évangéliser. C'est ça notre mission. Après, je ne dis pas qu'il ne faut pas faire autre chose, mais c'est nos priorités. Donc nous, en tant qu'Église, on sait que si on fait autre chose, on se détourne. Et c'est pour ça que ça m'a permis de proposer pourquoi il y a des choses qu'on ne fait plus, qu'on était censé faire, parce qu'on a des priorités. Parce qu'on fait ce que Dieu nous demande et que c'est discerné par l'Église. Deuxième chose, c'est prioriser de renoncer. Il faut savoir renoncer. Le renoncement est directement lié à notre finitude. Il est impossible pour nous de tout voir, de tout faire, de tout lire. Il suffit que vous rentriez dans une librairie évangélique, hein, CLC, ou vous avez envie de tout lire, mais est-ce que vous êtes capable de tout lire? Ben non. Hein? Donc, à un moment donné, vous devez renoncer et vous dire, ben, je vais lire ça, je vais lire ça, puis quand je serai en retraite, je vais lire ça, puis quand en retraite, ben oui, mais si les petits-enfants sont pas là, je vais lire ça. Voilà, vous avez toujours des choses à renoncer. Vous pouvez pas tout faire. Hein, parce qu'on est fini. Dieu, bien sûr, peut tout faire. Mais nous, non. Il faut l'accepter. Pour renoncer, nous devons être forts. Forts dans le sens de la maîtrise de soi. Il faut savoir ce que Dieu nous demande. Il faut savoir renoncer. Renoncer, c'est pas facile. Hein, c'est d'accepter qu'il y a une jouissance que j'ai pas. Moi, j'aimerais bien beaucoup, beaucoup lire tout, partout, etc. Mais, je suis un peu, voilà. Mais je dis non. J'ai une priorité. Qu'est-ce que je dois lire aujourd'hui, Seigneur, pour enseigner, pour donner ce que toi tu veux donner, etc. Oui, c'est avoir la maîtrise de soi. Contrairement à ce qu'on entend parfois, le besoin ne crée pas l'appel. Il y en a qui disent, ah oui, mais il y a ça, et ça, c'est, non, c'est pas l'appel. C'est pas parce que, on peut pas sauver toutes les baleines, hein. Les baleines, bon, il y en a qui sont perdues. Moi, je veux bien sauver une baleine, mais je ne peux pas sauver toutes les baleines. Bon, donc, je me concentrais sur une baleine. Vous voyez ? Mais voilà, il faut savoir choisir, mais c'est l'appel qui va me donner ce que je dois faire. Si moi, je dis, ah, j'ai un besoin, voilà, je vais aider celui-là. Puis je vais aider celui-là. Ah, mon bon cœur, voilà, je vais l'aider, etc. Oui, mais attends, c'est l'appel qui doit me guider. C'est pas le besoin. Hein. Et donc ça, c'est important, c'est renoncer à tout un tas de sollicitations pour me concentrer sur l'appel. C'est pour ça qu'il faut connaître l'appel. Troisièmement, organiser. S'organiser. Ah, gros mot encore. Identifions les voleurs de temps. Qui n'a pas regretté d'avoir perdu un temps précieux à chercher un document, hein, qui est égaré dans un tas de papiers, hein. Alors ça, c'est moi. Hein. J'ai du mal à m'organiser. Voilà. Oh, ouais, vous connaissez mes défauts. Voilà. Ordonnancer, planifier, classer, se discipliner, être ponctuel. Waouh. Tout ça, ça fait gagner du temps. On le sait, on le sait. Alors bon. On sera jamais parfait. Il y en a qui sont parfaits, hein. Mais bon, qui sont parfaits dans ce domaine-là. Moi, j'avais une dame quand j'étais au travail, qui était responsable de comment ça s'appelle, du stockage, parce que je travaillais dans les composites. Non, c'est des matériaux. Mais les matériaux, il fallait qu'on laisse au froid, au congélateur, parce que pour faire les satellites, tout ça, c'était des résines époxy, etc. Donc les résines époxy, il faut surtout pas qu'ils soient là, parce qu'ils polymérisent et tout ça. Donc il y avait énormément d'articles voilà, à faire. Elle était géniale. J'ai jamais réussi à la remplacer par quelqu'un d'autre. Mais en fait, elle faisait ça chez elle aussi. C'est-à-dire que tout ce qui est rentré dans le congélateur, il avait une douchette comme un Carrefour, et prenait la douchette, et il savait tout ce qui rentrait, tout ce qui sortait, dans toute sa vie, partout. Alors, je plains son mari, parce que je ne sais pas si c'est passé aux douchettes, tout ça, mais voilà, vous voyez, bon, voilà un peu la limite, quoi. Donc, je ne vous dis pas de devenir comme elle, parce que voilà, c'est trop. Mais il faut quand même un minimum d'organisation, sans tomber dans le perfectionnisme excessif. Hein. L'organisation doit être un principe de vie et se laisser désorganiser par le Seigneur. Hein. De temps en temps, le Seigneur dit « Ah, tu fais ça. Ah ben non, je peux pas, il faut que je fasse tel inventaire, il faut que je fasse ça. » Non, attends, faut être... Vous voyez. Donc il y a cet équilibre entre organiser et désorganiser et déléguer. Nous ne croyons pas indispensable. Gétro porte un regard lucide sur Moïse et disant « Moïse, tu n'y arriveras pas. Là, tu reçois tout le monde, là, tu fais le jugement de tout le monde, tu ne peux pas y arriver. » Et tu es submergé par les tâches. Et Gétro l'a conseillé de nommer des personnes qui allaient juger à sa place les cas courants. Dans Acte 6, les apôtres réalisent qu'ils doivent déléguer un service matériel. Et c'est comme ça que les diacres ont été mis en place, pour qu'eux puissent s'occuper de l'enseignement. Voilà. Et c'est un travail d'équipe et un travail de délégation. D'autres peuvent tout à fait remplir certains services à ma place, même si je dois accepter qu'ils ne seront pas faits exactement comme je veux. Ah oui, faut l'accepter. Et ça, c'est aussi un renoncement, c'est aussi une humilité, c'est aussi, voilà. C'est le travail en équipe, c'est que je dois accepter que l'autre fasse différemment. Et là, je peux vous dire que c'est pas facile non plus. Dernier point, le temps doit devenir un serviteur et pas un tyran. Dans les psaumes 90-12, il dit « Enseigne-moi à compter mes jours pour acquérir un cœur sage. Enseigne-moi à compter les jours. » Notre temps sera toujours un peu de temps par rapport à Dieu qui travaille dans l'éternité. Nous, notre temps est limité. Faut compter les jours. C'est-à-dire réfléchir à l'utilisation de notre temps pour avoir la sagesse, cette capacité à conduire dans les détails de notre vie, notre façon pour qu'elle honore Dieu. Et ça, c'est le principe de la sagesse. Et n'attendons pas qu'on ait 120 ans, comme Moïse, l'auteur de ce psaume, pour le dire, faisons-le avant, et comptons les jours, et tenons compte des limites. La deuxième chose, c'est racheter le temps. prenez garde afin de vous conduire avec circonspection, c'est Éphésiens 5, 15, non comme des insensés, mais comme des sages. Rachetez le temps, car les jours sont mauvais. Vous voyez, aujourd'hui, on dit, ah, les jours sont mauvais. Ah, il y a l'antichrist qui arrive et tout ça. Bon, je ne dis pas le contraire. À l'époque où Paul écrit ça, c'est en l'an 62, notre ère. Aujourd'hui, il y en a 2017. Eh bien, vous voyez, l'apôtre Paul déjà dit, il qualifiait ces jours de mauvais. Voilà. Rappelez-vous que les Romains, ils ont rasé Jérusalem, il ne restait plus rien. Ils jetaient les chrétiens dans les arènes aux lions, etc. Ils les crucifiaient à l'envers comme Pierre, etc. Est-ce que vous croyez que c'est mieux qu'aujourd'hui? Aujourd'hui, on dit que les jours sont mauvais. Puis alors, ils sont mauvais, oui. Et ils deviennent de plus en mauvais, oui. Et alors? Alors, est-ce que nous allons nous laisser effrayer par ces jours mauvais? Ou est-ce que nous allons faire l'œuvre du serviteur de Dieu? C'est de racheter le temps. Paul le faisait et nous sommes capables de le faire. Aujourd'hui comme autrefois, il faut transformer le chronos en kairos, en occasion de glorifier Dieu. Amen. Est-ce que nous voulons être de ces chrétiens qui transformons le chronos? Métro, boulot, dodo. Métro, boulot, dodo. Vas-y.
Métro, boulot, dodo.
Voilà. Est-ce que ça, c'est une vie, ça? On transforme en kairos. Aujourd'hui, un kairos. Aujourd'hui, un miracle de Dieu. Aujourd'hui, une intervention de Dieu. Aujourd'hui, je m'attends à ce que Dieu agisse. Amen. C'est ça, la vie. C'est ça, la vie. Et non, ce n'est pas la vie. L'œuvre de Christ nous a rachetés dans tous les aspects de notre vie, y compris dans la gestion du temps. Loin d'une vision utilitaire, hein, entrons dans la libération de ce temps qui nous apporte la victoire de Dieu et qui transforme le temps tyran en temps serviteur. Dieu est un bon maître. Il nous donne le temps nécessaire pour achever ce qu'il nous donne à faire. Il ne donne pas plus. Il nous donne ce qu'il ordonne. Alors vivons dans la grâce de Dieu, sans nous laisser angoisser par la gestion du temps, mais mettons à profit ce capital temps qu'il met à notre disposition pour le gérer correctement. Comptons sur Dieu qui, à partir des 5 points, des 5 pains et des 2 poissons qu'il nous donne de distribuer. Tout à l'heure, on chantait, c'est dans la faiblesse que Dieu nous rend fort et qu'il agit. Eh bien, ces 5 pains et 2 poissons que nous avons, avec le temps que nous avons, qui est limité, eh bien, Dieu va faire des miracles. Amen. Dieu va faire des miracles. Et il accomplira ce qu'il nous demande de faire. Et c'est le sens de Philippiens 2,13. Travaillez votre salut, car c'est Dieu qui met en nous le vouloir et le faire pour accomplir ses desseins. Toute la gloire revient à Dieu seul. Seigneur, merci pour cet enseignement que tu nous donnes de, Seigneur, ne pas de prendre les choses au sérieux par rapport au temps. Et que, Seigneur, nous puissions vraiment rentrer dans ces choses pour pouvoir te servir dans notre génération. Seigneur, nous ne voulons pas Seigneur, dans ce retour en arrière, Seigneur, dans cette nostalgie du passé. Nous ne voulons pas non plus être dans la fuite en avant, Seigneur, nous voulons être aujourd'hui. Aujourd'hui, cette génération, aujourd'hui, cette Église qui te sert, aujourd'hui, ce chrétien qui est là, à l'endroit où tu nous places pour te servir. Alors, Seigneur, donne-nous la capacité de renoncer à nous-mêmes et de pouvoir te servir tel que tu nous le demandes. Nous te prions au nom de Jésus. Amen. Amen. Amen.